Amazonie, comment as-tu fait pour sauvegarder l'inespéré à l'ombre mauve de tes buissons? Ces hommes libres qu'on croyait morts depuis longtemps, où les avais-tu cachés? Tandis que d'autres venaient ouvrir les routes, bâtir les villes, jeter les ponts, et renverser les grands cèdres dressés comme des îlots dans le moutonnement des feuillages où les oiseaux et les singes dormaient depuis la nuit des temps. Depuis que je suis arrivée dans le parc du Yasuni en Amazonie équatorienne, je promène cette question. La confrontation entre l'industrie pétrolière et ses clans de nomades refusant tout contact avec notre civilisation a quelque chose de brutal et d'absurde qui me donne l'impression de traverser un rêve, un de ces drames silencieux qui se jouent à mi-clos dans une jungle sans témoins.
Anne Cibran, Le Cercle Sauvage. Voyage en Amazonie équatorienne. Cinquième épisode. Dans la maison d'Amuketo.
Dire que ce matin encore, j'ignorais que ces chasseurs-cueilleurs existaient. Je n'ai pas le temps de les imaginer déambuler dans la forêt, de m'en réjouir, qu'il me faut aussitôt apprendre qu'un clan vient d'être exterminé. 30 hommes, femmes, enfants, assassinés à quelques kilomètres à peine de cette route où nous sommes, une piste boueuse parcourue de camions. J'étais partie avec Wacho, employé d'une fondation qui s'efforce d'apaiser les tensions entre les villages de colons, venus de partout pour défricher la forêt, et les communautés d'indigènes, nombreuses dans la région. Nous allions rencontrer les anciens, et voilà que cet appel téléphonique, cette nouvelle terrible, fait de nous les messagers du désastre, chargés d'aller dans les villages pour avertir et tenter de dissuader les hommes d'aller dans la forêt. Assise à l'arrière de la voiture, ballottée par les chaos, j'essaie de faire coïncider le paysage que j'aperçois par la vitre avec ce qui vient de se passer. Comment faire tenir dans le même périmètre ces plateformes pétrolières aussi vastes qu'un terrain de football éclairé jour et nuit par des groupes électrogènes, avec ces hommes avançant leur taille agile et la narine dilatée? Le décalage m'apparaît soudain dans sa disproportion, avec une dimension extravagante, presque fantastique. Ainsi donc ils existent, ceux que les Satcharuna décrivaient dans leurs contes comme des esprits de la forêt. Quelque chose en moi ne peut s'empêcher de fouiller les feuillages quand nous ralentissons. Passons ces ponts de fer au-dessus des ruisseaux. Ainsi donc, ils existent. Je n'aurais jamais cru.
Si tu savais, Anita, j'ai vu mourir tant de gens dans ce parc. Chaque massacre réveille la mémoire de tous les autres. J'ai l'impression surtout qu'on ne peut rien empêcher.
Les gens sortent de la forêt, marchent le long de la route, se regroupent pour parler. Bien qu'il n'y ait plus de réseau pour les téléphones portables, tout le monde semble informé, j'ignore comment. La voiture se remplit d'autostoppeurs, car les bus sont bloqués par l'armée. Il n'est question que du massacre. À chaque nouvel arrivant, Wacho répète ce qu'il sait.
Les Guarani de Jarentaro sont rentrés ce matin de leur expédition guerrière avec des photos, des objets volés et des lances. Ils ont aussi ramené deux otages, des fillettes.
Des enfants rescapés du massacre?
Oui, ce sont les seules survivantes.
Dans la voiture, l'émotion est palpable. Ce massacre réveille des souvenirs. Parmi ceux qui m'entourent, nul n'est originaire de cette forêt. Le Yasuni est une jungle annexée par des hommes sans terre, attirés par les promesses de l'État et des compagnies pétrolières. Beaucoup rêvaient d'une ferme avec quelques vaches, des arbres de cacao ou de café. Mais ça ne s'est pas bien passé. Le mot « tension » revient sans cesse. Entre les phrases, un peuple invisible déambule, dont les autorités continuent de nier l'existence. Pour ceux qui vivent ici, ils sont une obsession.
Chaque soir, quand je vais chercher l'eau au ruisseau, je pense à eux. Au moindre bruit, je frissonne. Quand les oiseaux s'envolent ou qu'une branche se met à claquer. Souvent, je laisse le seau pour rentrer chez moi en courant.
Dehors, la forêt a retrouvé sa splendeur. Arbres imposants, guirlandes de lianes, traces de bêtes imprimées dans la boue. À la sortie d'un hameau, quelques caravanes garées dans un semblant de parking.
Ce sont des colons? Des nouveaux arrivants?
Non. Des prostituées engagées par les pétroliers pour les employés qui restent bloqués sur la plateforme.
Washo, il a un nom, ce peuple? Ces hommes qui ont été tués?
Les Taro Menane. Mais la plupart des gens disent les non-contactés ou les nomades. Taro Menane, dans leur langue, ça veut dire le peuple du chemin.
Tu les as déjà vus?
Oui, quelquefois. Toujours par hasard. Mais je sais quand ils sont là. Ça crée une autre présence. Mais vraiment, on se sent observé.
Mon frère, une fois, il est tombé sur toute une famille. Le sentier qui menait à leurs arbres des Chonta était coupé par une nouvelle route où le goudron avait à peine eu le temps de sécher. Ils se tenaient dans le fossé, serrés les uns contre les autres, incapables de bouger, gémissant dès qu'un camion passait. Mon frère a appelé les enfants d'abord pour les faire traverser. Les parents ont suivi. C'était comme si ces lumières trop violentes, ces odeurs d'huile et de pétrole leur avaient pris leur force.
À quoi vous savez qu'ils sont là?
Les cris, les traces, les lances qu'ils plantent en croix au travers d'un sentier pour nous interdire d'aller plus loin. Il y a plein de signes.
Pour celui qui sait lire la forêt, ils ne cessent pas de nous parler.
Et qu'est-ce qu'ils disent?
Laissez-nous tranquilles. Ils ne disent que ça. De toutes les façons possibles. Mais qui les écoute?
Tu sais, Anita, c'est l'histoire d'un peuple dont la forêt n'est plus assez profonde pour le cacher. Dans les années 80, les Guarani ont été déplacés dans des réserves pendant que les compagnies pétrolières ouvraient les premières plateformes sur leurs territoires ancestraux. Quand ils sont parvenus à retourner chez eux, quelques années plus tard, ils ont retrouvé leur territoire dévasté. Pour trouver du gibier, il aura fallu désormais s'enfoncer plus loin encore dans la forêt, empiétant alors sur les terres des nomades qui se sont sentis envahis à leur tour. Les affrontements ont toujours existé entre peuples guerriers de l'Amazonie, sauf que désormais les Guarani mènent leurs représailles avec des fusils. Ils notent l'emplacement des campements nomades au GPS et ils photographient leurs exploits au smartphone.
Qui leur donne ces fusils? Ces GPS?
Les compagnies pétrolières. Ils ont tout intérêt à ce que les nomades disparaissent définitivement, car leur territoire contient beaucoup de pétrole. Comme ce peuple est protégé par des instances internationales, une guerre des clans, c'est très pratique. Les Indiens se tuent entre eux.
On traverse une jungle de collines quand j'aperçois une série de villas avec d'immenses baies vitrées. Washo m'explique alors que ce lotissement à l'occidental en plein milieu de la jungle, c'est Pomiko.
Un jour, le chef de la communauté Guarani de Pomiko tombe sur la photo d'une maison, dans une revue qu'un employé de la compagnie avait oubliée à l'épicerie du village. Je crois que c'était une maison de l'Arkansas, le genre grand villa américaine. La revue à la main, il va trouver les pétroliers pour exiger qu'on leur bâtisse ici les mêmes maisons. D'abord, la compagnie refuse. Alors, comme à chaque fois, les Guarani font des barrages pendant plusieurs semaines, bloquent les citernes et les camions. Estimant que 50 villas à 100 000 dollars coûtent moins cher qu'un arrêt de production, la compagnie finit par céder. Et voilà comment ces lotissements américains ont poussé en pleine jungle. Mais avec les grands baies vitrées, certains se plaignent déjà de moustiques. On trouve qu'il fait trop chaud. Les salles des bains ne sont pas encore terminées que beaucoup abattent les murs de séparation. Traditionnellement, les Guarani vivent ensemble sous le même toit. Les petites pièces, ça les isole. On peut dire que les Guarani de Pomiko ont tout ce qu'ils demandent, même les antennes paraboliques et les télés à écran plat. On cède à tous leurs caprices, car il n'y a rien que le pétrolier redoute davantage qu'un retard d'exploitation. Quand le pétrole aura été pompé, la compagnie s'en ira du jour au lendemain et ce peuple aura tout perdu. Déjà, les hommes ne chassent plus. Avec la pollution et le trafic de fourrure, le gibier est difficile à trouver. Beaucoup ont perdu la connaissance de la forêt et n'ont plus la condition physique. Les femmes ont pratiquement arrêté de cultiver le manioc. Elles ont pris l'habitude du pain, du sucre. La compagnie leur fait régulièrement porter les plats et pas des employés avec ketchup, hamburger et soda.
Pressé de réunir les hommes, Washo me laisse avec le petit-fils d'Amuketo, une des anciennes nomades que je souhaitais rencontrer. Le petit-fils me dit d'abord que sa grand-mère est fatiguée, qu'elle ne pourra pas me voir. Puis il demande si j'ai des cadeaux. Tandis que je sors les marmites, son épouse apparaît qui prend la plus grosse et s'en va. Assis dans sa chaise en plastique, absorbé par l'écran de son téléphone mobile, le petit-fils d'Amuketo semble m'avoir déjà oublié. Je pars me promener au village. On m'appelle. Je n'ai pas le droit de marcher seule pour raison de sécurité. Je décide d'attendre Washo dans la voiture quand quelqu'un vient frapper à la vitre. Amuketo va mieux. Elle veut voir mes marmites. Escortée de quelques hommes, je marche vers sa maison. Devant l'école flambant neuve, des jeunes filles Waorani en uniforme font de l'aérobic. Amuketo a eu droit elle aussi à sa villa de l'Arkansas. Mais on sent que la maison n'a jamais été habitée. Blanc sur les vitres, câbles roulés, bâches de plastique. L'emballage est encore autour du cadeau. La vieille dame lui préfère la cahute branlante qui se dresse à côté. Conçue pour disparaître sous les feuillages de la forêt, la hutte apparaît en découpe sur le crépi de la villa. Avec son toit de palmes sèches, elle ressemble à un animal surpris dans une clairière et guettant l'instant d'inattention pour disparaître sous l'ombrée. À côté de la maison traditionnelle, la villa a quelque chose d'inexpressif, engoncé dans l'aluminium et le ciment, pour un tape-à-l'œil bardé de serrures et de portes renforcées. Un cube clos sur lui-même, avec un dehors et un dedans. Tandis qu'à regarder la hutte, on la sent qui respire en même temps que la forêt. Avec la poésie involontaire d'un enfourchement de branches où est suspendu un panier. C'est aussi une maison qui se pétrit avec les gestes, avec le temps. Boucanée par les fumées, elle s'ouvre sur un sillon creusé dans la terre par les pieds de la nomade au fil de ses mouvements. Amuketo m'attend devant la porte. Elle sourit, décharnée, les seins nus, avec ses épaules de jeune fille. Je m'aperçois qu'elle tient deux marmites rutilantes à la main. Son petit-fils nous rejoint.
Bon, allez-y maintenant. Vous pouvez poser votre question à ma grand-mère.
Plantée comme ça sur le trottoir, je ne sais que demander. Le soleil m'éblouit. Je crois surtout que la vieille dame m'aime profondément. Je demande la permission d'entrer m'asseoir chez elle, à l'ombre. Amuketo s'écarte pour me laisser passer. Le temps seulement d'incliner la tête, je bascule dans un autre monde. La fraîcheur de l'endroit d'abord, et cette pénombre douce. Mais surtout, cette ambiance singulière, comme si les gestes de cette vieille femme avaient mystérieusement infusé chaque objet d'une âme propre et d'un souffle. La terre est craquelée de ridules, avec des rondeurs, des orifices et des paroles certainement. Un coin pour le feu, un autre pour dormir, sécher la viande. Le hamac distendu a gardé l'empreinte du corps qu'il berce chaque nuit. Près de l'âtre encore tiède, j'aperçois un singe endormi au fond d'un panier. Plus haut, sous le toit, un petit aigle couronné de plumes blanches me toise d'un œil luisant. Amuketo n'est pas une femme Waorani. Nomade, appartenant peut-être au peuple invisible, elle est sortie de la forêt par panique lors d'une guerre entre clans. Elle redoutait pour la vie de son fils, encore bébé, serré contre elle. Pour les non-contactés, celui qui sort de la forêt est considéré comme mort et ne pourra jamais revenir par la suite, sous peine d'être tué par les siens. Passer la lisière, c'est mourir. Amuketo est morte il y a plus de 40 ans. Mais sa maison est comme une bulle atemporelle où flotte un peu de sa vie d'avant. Chaque fois qu'elle passe le seuil, elle retrouve la forêt de sa jeunesse. À tisonner le feu, tisser le hamac, préparer le repas, comme s'ils allaient revenir d'un instant à l'autre, ceux de son clan. On reste un moment face à face, sans savoir comment se parler, le petit-fils n'ayant pas daigné nous suivre. Puis Amuketo me propose un rondin près du hamac où elle s'allonge finalement. La lumière descend. L'après-midi est déjà moins chaude. Assise devant la grand-mère, je n'ai pas de questions, que le bonheur de respirer à côté d'elle. Combien de temps restons-nous les yeux dans les yeux au bain l'une de l'autre à mêler nos fascinations. Vient alors ce moment où la vieille dame se met à chanter. C'est une litanie modeste, aussi fragile que le ruissellement d'une source, mais qui s'adresse à la forêt avec tant de simplicité qu'un mouvement se fait au dehors dans les branches, comme si les arbres penchaient la tête pour écouter.
Ouais, c'est bon, il est temps de sortir. La grand-mère est fatiguée.
Je me lève, marche vers le hamac, et tandis que nous nous prenons les mains, Amuketo continue de chanter. Ce matin, très tôt, je suis réveillée par le chant des oiseaux. C'est après les moteurs de la nuit et avant ceux du matin. Les fêtards rentrés dans les hôtels, les travailleurs pas encore levés. Une petite heure où la ville de Coca est rendue au silence. L'interstice est rempli d'ailes larges, habituées aux grands arbres. Des oiseaux que j'ai entendus ailleurs, au cœur de la forêt. De ceux qui se succèdent avant le jour pour donner leur couleur au feuillage. Un chant ponctuel qui s'est entré dans la symphonie d'un matin de jungle entre l'aboiement des crapauds et le cri des félins. Un chant pour dire le temps qui reste avant le retour de la lumière, la sortie du néant. Je sors du lit, ils sont là, avec leur bec large, dans le vieil arbre de Witouk. Le seul du quartier est sans doute le dernier survivant de ce bout de jungle. Je pense à ces maisons d'enfance qui semblent soudain minuscules, comme profanées par l'absence, les années écoulées. J'imagine les oiseaux perchés sur les antennes et découvrant le hangar, l'avenue déserte, le toit du supermarché, à l'emplacement de leur forêt. Mais leur chant est limpide, tranquille, comme si la ville était là en visite. Qu'elle n'allait pas rester. Je n'arrive pas à repartir, prendre le bus pour Quito. Depuis le massacre, il ne s'est rien passé. 3 jours. Ce silence, cette inertie m'obsède. À peine un entrefilet dans la presse. Comme si ce peuple n'existait pas. 30 morts au moins. Un peuple protégé par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Le pire, c'est que pour l'instant, nul n'est allé enquêter sur les lieux. Dans une forêt tropicale, quelle preuve va-t-il rester? Quant aux assaillants, ils ont repris leur vie comme si de rien n'était, gardant les fillettes en otage, allant négocier en ville les photos du massacre. Alors je reste à la fondation, j'y passe mes journées. J'ai l'impression qu'ils sont les seuls à s'intéresser à ce peuple, à tenter d'informer. J'attends au moins un mouvement, un début d'enquête. Après, je m'en irai. La fondation occupe le rez-de-chaussée d'une villa. Un secrétariat, 3 bureaux, une petite bibliothèque, et beaucoup d'objets traditionnels et de clichés anciens. J'ai entrepris de recopier une carte du Yasuni pour tenter de situer les villages Waorani et d'imaginer les déplacements des invisibles. Car la carte indique aussi l'emplacement de leurs anciens campements, ainsi que les endroits où il y a eu des attaques, qui correspondent assez précisément aux zones de prospection pétrolière. Alors je remarque ce curieux manège du côté du secrétariat d'où l'on ressort en baissant la voix, veillant à refermer la porte. Ont-ils des nouvelles? La fondation est aussi un réseau de paroisses où les prêtres ont leurs églises, leurs fidèles. Ils sont bien informés. À midi, tout le monde s'en va. Ne reste que Washo dans le secrétariat.
Anita, viens voir.
Sur un écran d'ordinateur, je découvre cette photo.
Elle s'appelle Taona.
Je devine aussitôt qu'il s'agit d'une des fillettes du peuple invisible. Une survivante du massacre. Elle doit avoir 6 ans, a le nez qui coule, les lèvres bleuies par le froid. Un sac poubelle de plastique vert lui couvre les épaules. Derrière elle, un de ses ravisseurs, sans doute. On n'en distingue que le ventre, le bras qui la retient. La photo est paradoxale, qui dit à la fois que l'enfant existe et que quelque chose a cessé. La preuve qu'il y a des nomades et qu'ils ont été massacrés. Photo d'un rapt. Elle a gardé quelque chose de l'énergie du ravisseur, crue, presque violente dans son impunité. Elle fait de moi le témoin impuissant d'un sacrilège, en même temps qu'elle crée une complicité tacite, presque malsaine à pouvoir ainsi contempler l'enfant d'un peuple qui toujours se cache, entrer dans son intimité. La gorge nouée, je reste devant l'écran, incapable de dire un mot. Même virtuel, ce face-à-face est pour moi une rencontre. L'espace entre nous se remplit de questions. J'ai devant moi quelqu'un qui me ressemble absolument, dont je peux deviner l'épuisement, la détresse, et pourtant je ne peux rien connaître de ce qu'a été sa vie. Sa relation à la forêt est une expérience sans trace presque, volatile et fusionnelle. Quelque chose qui se transmet dans l'indicible par le rituel des instants. Parce qu'il y a aussi ce regard, tandis que la profanation, la violence sont partout autour d'elle. Ses prunelles rondes, brunes, légèrement baissées, figées sans expression, dans une sorte de contemplation qui ouvre entre nous cette trappe vertigineuse. L'enfant est insaisissable tant l'expression des yeux est tournée vers l'intérieur, absorbée par quelque chose qu'elle est seule à contempler. Si bien que le corps de la fillette m'apparaît soudain comme une cosse vide. Elle s'est enfuie ailleurs. Ils n'ont rien attrapé.
Le cercle sauvage de Anne Cibran. 5e épisode. Avec
Chloé Réjon,
David Durán Camacho,
Enrique Fiestas,
Harrison Arevalo,
Odile Lauría,
Bruitage Bertrand Amiel, conseillère littéraire Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Nicolas Depagraf. Assistant à la réalisation, Julie Briand, Vivien Demeyer. Réalisation, Laure Egoroff.